Après avoir lu l'entrefilet, je rends le journal à Oshima. L'article évoque les causes possibles de cette pluie de poissons, mais aucune ne paraît vraiment convaincante. La police explore les pistes d'un canular ou d'un cambriolage. L'Institut météorologique n'a pas relevé de conditions atmosphériques susceptibles d'entraîner une pluie de poissons. Le porte-parole du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Industrie n'a pas encore commenté l'événement. À ton avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Me demande Oshima. Je secoue la tête. Pas la moindre idée. 2000 poissons sont tombés du ciel le lendemain de l'assassinat de ton père, non loin de chez toi. Ça doit être une coïncidence. Sans doute. Un autre article dans le journal mentionne également une pluie de sangsues sur une aire de repos de l'autoroute Tokyo-Nagoya, qui a entraîné un carambolage sans gravité. Personne ne parvient à expliquer comment des sangsues ont pu se mettre à pleuvoir du ciel. La nuit était claire, il n'y avait pas un nuage. Là non plus, tu n'as aucune idée de ce qui a pu se passer ? Aucune idée. Oshima replie le journal. Ce qui veut dire qu'une succession d'événements étranges et inexplicables frappe notre pays. Ces événements n'ont certainement aucun lien entre eux. Il doit s'agir de simples coïncidences. Mais cela m'intrigue tout de même. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. C'est peut-être une métaphore ? C'est possible. Mais de quoi cette pluie de sardines et de maquereaux peut-elle être la métaphore ? Je te le demande. Nous restons silencieux un moment. Alors, j'essaie de prononcer des mots que je n'ai pas pu dire depuis longtemps. Vous savez, Oshima-san, il y a quelques années, mon père a fait une prédiction. Une prédiction ? Je n'en ai encore jamais parlé à qui que ce soit. Pour être franc, je pensais que personne ne me croirait. Oshima ne dit rien et son silence m'encourage à poursuivre. Plus encore qu'une prédiction, c'est peut-être une malédiction. Mon père me l'a répété je ne sais combien de fois, comme s'il voulait graver chaque mot au burin dans ma conscience. Je prends une inspiration profonde. Je me répète une nouvelle fois les mots que je dois prononcer. Je sais qu'ils sont là. Je n'ai pas vraiment besoin de vérifier. Ils ont toujours été là. Mais je dois les soupeser encore une fois, et je dis « Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère. » Une fois que j'ai prononcé cette phrase avec des mots concrets, réels, je sens un vide naître en moi. Et au fond de ce vide, j'entends mon cœur battre avec un son creux, métallique. Oshima me regarde un bon moment sans changer d'expression. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère. C'est ce que t'a dit ton père ? Je hoche la tête à plusieurs reprises. C'est exactement la prophétie qui a été faite à Œdipe. Tu le sais, j'imagine. Je hoche la tête. Mais ce n'est pas tout. Il y a un bonus. J'ai une sœur de 6 ans, mon aînée, que je ne connais pas. Et mon père a dit que je coucherai avec elle aussi. Ton père t'a dit ces mots en face ? Oui. Mais à l'époque, je n'étais encore qu'un enfant et je ne connaissais pas le sens particulier du terme « coucher ». Ce n'est que plusieurs années après que j'ai compris ce que mon père voulait dire. Oshima reste muet. Mon père m'a dit que j'aurais beau faire, je ne pourrais pas échapper à mon destin. Cette prophétie est comme un mécanisme à retardement enfoui dans mes gènes. Et quoi que je fasse, elle se réalisera à coup sûr. Un jour, je tuerai mon père de mes mains et je coucherai avec ma mère et ma sœur. Oshima reste plongé dans le silence, comme s'il inspectait minutieusement chacun des mots que j'ai prononcés pour y chercher des indices. Pourquoi ? Dit-il enfin. Pourquoi ton père a-t-il éprouvé le besoin de te faire cette horrible prédiction ? Je l'ignore. Il ne m'a pas donné d'explication, dis-je en secouant la tête. Peut-être que c'était une manière de se venger de ma mère et de ma sœur qui nous avaient abandonnés, ou qu'il voulait les punir à travers moi. Même s'il devait te faire du mal pour ça ? Je hoche la tête. Mon père ne m'a jamais considéré que comme un objet, au même titre que ses sculptures qu'il se sent libre de briser ou de jeter à sa guise. « Si c'est vrai, c'est drôlement tordu et pervers, » dit Oshima. Vous savez, Oshima-san, là où j'ai été élevé, tout est tordu. Tout est atrocement tordu et pervers, à tel point que ce qui est droit y semble tordu. J'ai compris ça il y a des années, mais je n'étais encore qu'un enfant et je n'avais pas d'autre endroit où aller. J'ai déjà vu les œuvres de ton père, dit Oshima. C'est un sculpteur de talent, des œuvres originales, provocantes, fortes, sans concession, de l'art authentique sans le moindre doute. Peut-être. Mais vous savez, les débris qui restent une fois qu'il a créé une œuvre, ces débris-là sont répandus comme du poison tout autour de mon père, et on ne cesse de s'y heurter. Mon père a sali et blessé tous ceux qui l'entouraient. Je ne sais pas s'il faisait exprès ou non, ou s'il ne pouvait pas faire autrement. Peut-être que ça faisait partie de sa personnalité dès le départ. Et je me demande si, en ce sens, il n'est pas relié à quelque chose de particulier. Vous voyez ce que je veux dire?
Je crois, oui. Quelque chose qui dépasserait la distinction ordinaire entre le bien et le mal. On pourrait dire que ça a été la source de sa force artistique.
Et moi, j'ai hérité de lui la moitié de mes gènes. C'est peut-être pour ça que ma mère m'a abandonné. Elle voulait se séparer d'un être né de cette force terrible, un être souillé. Oshima presse doucement les doigts sur ses tempes en réfléchissant. Puis il me regarde, les paupières plissées.
« Mais il est possible qu'il ne soit pas ton véritable père, non? Ton père biologique, je veux dire. »
Je secoue la tête. Il y a quelques années, nous avons fait des examens à l'hôpital. Nous sommes allés tous les deux faire un test ADN. Les résultats ont prouvé qu'il était bien mon père biologique, sans aucun doute possible.
C'est quelqu'un de circonspect, on dirait.
Il voulait me prouver que j'étais sa création. Quelque chose qu'il pouvait signer comme une de ses œuvres. Oshima a toujours les doigts appuyés sur ses tempes.
Mais en fait, la prophétie de ton père ne s'est pas réalisée. Ce n'est pas toi qui l'as tué, puisque tu étais à Takamatsu à ce moment-là. Quelqu'un l'a tué, mais ce n'était pas toi.
J'ouvre mes mains devant mon visage en silence et les regarde. Ces deux mains sinistres, qui étaient couvertes de sang dans les ténèbres de la nuit. Pour être franc, je n'en suis pas si sûr, dis-je. Et je lui raconte tout. Comment j'ai perdu connaissance pendant quelques heures, l'autre nuit, en rentrant de la bibliothèque. Comment je me suis réveillé dans l'enceinte d'un sanctuaire avec mon t-shirt plein de sang. Comment j'ai essayé de nettoyer ces taches dans les toilettes publiques. Je lui explique que je n'ai gardé aucun souvenir de ce qui a pu se passer pendant que j'étais évanoui. Pour que l'histoire ne soit pas trop longue, j'omets de lui raconter que j'ai passé le reste de la nuit chez Sakura. Oshima me pose une question ou deux pour vérifier quelques détails et assimiler mon récit. Mais il ne fait aucun commentaire. Je ne sais pas du tout comment j'ai pu me retrouver avec tout ce sang sur moi, ni à qui il était. Je ne me souviens de rien. Mais ce n'est pas une métaphore. J'ai peut-être bel et bien tué mon père de mes mains. C'est l'impression que j'ai. Bien sûr, je ne suis pas retourné à Tokyo ce jour-là. J'étais à Takamatsu. Mais la responsabilité commence dans les rêves, n'est-ce pas?
Le poème de Yeats, dit Oshima.
J'ai peut-être assassiné mon père en rêve. J'ai emprunté des circuits particuliers aux rêves et je suis allé le tuer.
C'est ce que tu crois? En un sens, c'est peut-être une réalité pour toi. Mais la police, et personne d'autre d'ailleurs, ne te poursuivra pas pour responsabilité onirique. Personne n'a le don d'ubiquité. Einstein l'a démontré scientifiquement. C'est une vérité universellement reconnue.
Je ne parle pas de loi ni de science.
Ce dont tu parles, Kafka Tamura, c'est d'une supposition, ni plus ni moins. Une supposition hardie et surréaliste, digne d'un scénario de science-fiction.
Bien sûr qu'il s'agit d'une supposition. Je le sais bien. Sans doute que personne ne croira à une hypothèse aussi ridicule. Mais si aucune antithèse ne vient réfuter une hypothèse, aucun progrès scientifique n'est possible. C'est ce que mon père disait toujours. Une antithèse, c'est un champ de bataille dans le cerveau. Voilà ce qu'il disait. Il répétait cette phrase comme une litanie.
Et pour l'instant, je ne vois pas la moindre antithèse à opposer à cette supposition. »
Oshima se tait. Je ne trouve rien à ajouter non plus.
« C'est pour échapper à cette prédiction que tu as fugué et que tu t'es enfui aussi loin, n'est-ce pas ?»
finit par dire Oshima. Je hoche la tête, puis je lui montre le journal plié sur la table. Mais on dirait que je ne suis pas parvenu à y échapper.
« N'espère pas que la distance résoudra tout », avait fait remarquer le garçon nommé Corbeau. « Ce qui est sûr, c'est que tu as besoin d'un endroit où te cacher quelque temps », dit Oshima. « Je ne sais pas quoi te dire d'autre. »
Je me sens terriblement fatigué. Il me semble tout à coup que mes jambes ne me soutiennent plus. Je me laisse aller contre Oshima qui est assis tout près de moi et il me serre dans ses bras. J'enfouis mon visage contre sa poitrine plate. Vous savez, Oshima-san, je n'ai pas envie de faire ce genre de choses. Je ne voulais pas tuer mon père et je ne veux pas coucher avec ma mère ou ma sœur.
Évidemment, dit Oshima en caressant mes cheveux courts. Évidemment. Qui le souhaiterait?
Pas même en rêve.
Ni dans une métaphore, ou une allégorie, ou une analogie.
Il fait une pause puis ajoute au bout d'un moment.
Si tu veux, je resterai ici avec toi cette nuit. Je peux dormir dans un fauteuil.
Mais je refuse. Il me semble que je ferais mieux de rester seul.
Oshima rejette en arrière la mèche qui lui tombe sur le front, puis dit après une légère hésitation. « Je sais que je ne suis qu'un absurde hermaphrodite gai et abîmé, mais si c'est cela qui t'inquiète, je... »«
Oh non, 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 ce n'est pas ça du tout. Simplement, je voudrais réfléchir seul cette nuit. Il s'est passé trop de choses ces derniers temps. C'est tout. »
Oshima note son numéro de téléphone sur un post-it. « Si tu as envie de parler à quelqu'un cette nuit, appelle-moi. J'ai le sommeil léger. »
Je le remercie. Cette nuit-là, j'ai vu un fantôme.